France Inter.
Bonjour à tous. Je veux que mon frère revienne, la supplique des proches des otages israéliens à Gaza. Plus de 6 mois de guerre entre Israël et le Hamas, toujours pas de trêve ni de cessez-le-feu en vue. Reportage de notre correspondant hier soir à Tel Aviv, où les familles des otages continuent inlassablement de manifester. Dans l'actualité aussi, un nouveau parquet national contre la criminalité organisée, le PNACO, annonce du ministre de la Justice. On vous explique. La Corse qui espère faire revenir les touristes cet été. Avions et ferries sont trop chers, disent les professionnels. À partir de demain, à la télévision, une campagne de sensibilisation contre les violences éducatives ordinaires. Et puis le PSG, pas encore tout à fait, mais presque champion. Après son match nul face au Havre, on y revient dans le journal des sports de Nicolas Perronnet. Avant, vos invités à 8h20, Ali et Marion.
Ils viennent nous éclairer sur le sujet délicat du sexe, devenu plus rare, plus grave ces dernières années. Selon les dernières études, on aurait de moins en moins de relations sexuelles. Les jeunes surtout sont concernés. Est-ce une réalité? Pourquoi et comment y remédier? Question posée à nos deux invités, Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, qui publie un dossier sur ce sujet, et la sexologue Olivia Benhamou.
Tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe, on attend vos témoignages et vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter.
Plus de 6 mois de guerre entre Israël et le Hamas, c'est la durée de la très longue, de l'insupportable attente des familles des otages israéliens. Alors que le Hamas dit étudier une contre-proposition de trêve formulée par Israël, le mouvement islamiste a diffusé hier soir une vidéo de deux otages, deux hommes de 64 et 47 ans, enlevés le 7 octobre, captifs à Gaza. Vidéo projetée hier soir à Tel Aviv, où les familles des otages se sont à nouveau rassemblées pour demander aux deux parties de trouver un accord, une supplique prononcée notamment par le père d'Oman Miran, l'un des deux otages filmés par le Hamas. Thibault Lefebvre y était.
Le discours est poignant. Dani Miran a les yeux rougis et une longue barbe qu'il a décidé de ne pas tailler jusqu'à la libération des otages. Il exige une trêve. Deux heures avant, il a vu pour la première fois depuis le 7 octobre le visage de son fils Omri dans la vidéo publiée par le Hamas.
D'un côté, tu es très content de voir qu'ils sont en vie, mais d'un autre côté, tu peux remarquer dans leur regard qu'ils sont en train de souffrir.
Pour Michael Lévy, c'est un signe d'espoir. Son petit frère, Or, est otage à Gaza.
Je pense que la seule solution, c'est un accord. J'essaye de ne pas me demander à qui la faute. Je veux juste résoudre cette situation.
Dans l'assistance, Sheked est en pleurs.
It's just frightening, honestly.
Il y a de la peur, bien sûr, mais aussi de la colère contre les milliers de manifestants à travers le monde qui, selon elle, défendent la Palestine, mais crachent sur Israël.
Ici, on demande à ce que la guerre s'arrête, qu'il y ait un accord et que les gens reviennent. Et malgré ça, la planète nous considère comme des agresseurs. Et c'est très dur.
La manifestation se termine avec les noms des otages lentement égrenés. Ils sont encore 133 aux mains du Hamas.
Thibault Lefebvre à Tel Aviv, dans le sud de la bande de Gaza. Israël continue à préparer une offensive terrestre à Rafah, la jetée flottante qui permettrait de faire entrer plus d'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé, devrait être entièrement fonctionnelle la semaine prochaine. L'armée américaine a commencé sa construction jeudi. Et puis le chef de la diplomatie des États-Unis, Anthony Blinken, sera demain en Arabie Saoudite pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu. Dans le nord d'Israël, le Hezbollah libanais revendique le lancement de dizaines de drones, de missiles et de roquettes. Le mouvement pro-iranien dit avoir visé des positions militaires en riposte aux attaques d'Israël hier dans le sud du Liban. Le conflit au Proche-Orient qui continue d'échauffer les esprits dans les universités américaines. Près de 200 manifestants pro-palestiniens ont été interpellés hier dans 3 campus à Boston, en Arizona et dans l'Indiana. Un mouvement qui gagne aussi la France, notamment à Sciences Po Paris, marqué par des occupations et des blocages ces derniers jours, avant l'accord trouvé vendredi soir avec la direction. Hier, Gabriel Attal a déploré un spectacle navrant et choquant. Le Premier ministre affirme qu'il n'y aura jamais de droit de blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse. Fin de citation.
8h05, après le parquet financier et le parquet antiterroriste, voici le parquet contre la criminalité organisée. quartier.
Et il s'appellera le PNACO, c'est l'annonce ce matin du ministre de la Justice. Dans un entretien accordé à la Tribune dimanche, Éric Dupond-Moretti veut un nouveau procureur national pour mieux lutter, Pierre de Cossette, contre les trafics de drogue et le crime organisé.
Il y a quelques semaines, un magistrat spécialisé nous confiait que la criminalité organisée était appelée à égaler, voire dépasser la menace terroriste. Éric Dupond-Moretti ne fait pas ce parallèle, mais pour appuyer son projet de PNACO, Parquet National Anticriminalité Organisée, il n'hésite pas à faire référence au Parquet National Antiterroriste créé il y a 5 ans et qui marche du feu de Dieu, ajoute-t-il. Référence aussi au Parquet National Financier créé il y a 10 ans. Pas de détails à ce stade sur le nombre de magistrats qui armeraient ce nouveau parquet spécialisé à compétence nationale contre le crime organisé donc, ni sur l'organisation de cette nouvelle entité judiciaire. Le ministre de la Justice précise simplement qu'il s'agit de lutter contre le haut du spectre de la criminalité organisée en bonne intelligence avec les 7 procureurs à la tête des juridictions interrégionales à Marseille, Lyon, Lille ou encore Paris. Le garde des Sceaux en dira plus à l'automne.
Et autre nouveauté annoncée par le ministre, la création d'un nouveau statut de repenti sur le modèle de la justice italienne. La loi française actuelle est trop complexe et peu efficace. Emmanuel Macron est prêt à ouvrir le débat sur la défense européenne, y compris avec la dissuasion nucléaire. Dans un entretien accordé aux journaux du groupe EBRA, le président de la République propose de tout mettre sur la table et de regarder ce qui nous protège véritablement de manière crédible. La France est le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire. Certains sont encore en vacances de printemps quand d'autres rêvent déjà à celle de l'été prochain. Et au palmarès des destinations les plus prisées, la Corse perd des places. Après une saison décevante l'an dernier, 8% de visiteurs en moins. Lille s'inquiète car le tourisme est vital en Corse, plus que dans n'importe quelle autre région de France. Alors pour faire revenir les visiteurs, les professionnels demandent une baisse du prix des ferries et des avions. Reportage à Porto Vecchio de William Delesseux.
Sous les mûriers de la terrasse du bistrot, vue sur le port de Plaisance, la pêche du jour est inscrite à la carte de Damien Chilichini.
Du corbe, du pagre, du mérou.
Avant la saison estivale, il faut faire les comptes. Et ici, l'addition moyenne a baissé de 20% en 2 ans.
On a de plus en plus de gens qui sont regardants, qui partagent, qui, au lieu de prendre une boisson pour chacun de leurs enfants, n'en prennent qu'une pour 3.
En cause, le budget vacances des clients déjà amputé avant même d'arriver sur l'île.
Quand une famille arrive chez nous et qu'elle a payé un certain prix son billet de bateau ou son billet d'avion, et ils sont un petit peu plus réticents et freinés à dépenser dans nos commerces.
Pour une famille de 4 personnes, le prix d'un aller-retour en juillet atteint déjà près d'un millier d'euros, alors les réservations dans les hôtels ne suivent pas.
C'est loin d'être la folie. Hein. On risque même d'être au-dessous de l'année dernière en fréquentation.
Sur les hauteurs, César Filippi à la tête de l'hôtel Le Belvédère et du groupement des hôteliers, il réclame un plan d'urgence.
L'État et les compagnies régionales doivent se mettre avec les professionnels pour qu'on leur explique exactement de quoi ils retournent et corriger afin qu'on n'ait pas au moins ce handicap. On en a déjà suffisamment.
La compagnie Air Corsica assure par exemple qu'elle ne peut pas faire baisser ses prix. Elle a même demandé une subvention annuelle plus importante de la part de l'État.
William Delesseux. En France, la vigilance en France, bien sûr, comme en Corse, la vigilance aux orages élevée partout, mais plusieurs milliers de foyers restent privés d'électricité dans les départements de Dordogne, de Corrèze et du Limousin. En raison notamment de chutes d'arbres sur des lignes à haute tension.
Une citation maintenant, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique.
Et oui, on le rappelle, c'est écrit depuis 5 ans dans le code civil, mais entre la loi et la pratique, beaucoup de parents estiment toujours légitime d'administrer des fessées et des claques à leurs enfants ou de les humilier verbalement contre ces violences qui laissent des traces. L'association Stop Violences Éducatives Ordinaires lance une campagne télévisée à partir de demain, Gabriel Grécourt.
L'héritage, c'est le nom de cette nouvelle vidéo de sensibilisation. Elle alerte sur la transmission à travers les générations des violences ordinaires envers les enfants.
Cette main, c'est mon héritage. Mais on peut toujours tourner le dos à un héritage.
Pour arrêter cette continuité de la violence, la loi interdit depuis 2019 les fessées, gifles ou humiliations. Mais plus largement, il faudrait changer les mentalités sur l'enfance, selon Gilles Lazimi, président de l'association Stop Violences Éducatives Ordinaires.
Bien sûr, cette loi, elle est symbolique, elle est forte, elle existe. Elle est lue pendant les mariages, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut des mesures d'accompagnement. On a un regard et une représentation des enfants qui est erronée. C'est-à-dire qu'on a considéré que les enfants, il fallait les dresser, qu'il fallait les faire obéir à tout prix.
D'autant que ces violences ont un impact néfaste sur les enfants, souligne Gilles Lazimi.
On sait avec de très nombreuses études que ces violences ont un impact sur la santé et sur les apprentissages, et que si on veut demain des enfants moins violents, des enfants plus empathiques, une société plus pacifique et en ayant moins de stress, de dépression, eh ben on sait qu'il faut cesser ces violences.
Cette campagne de prévention devrait être diffusée pendant un mois environ à la télévision. Elle est déjà accessible sur les réseaux sociaux.
Et une vidéo à retrouver sur le site de l'association stopveo.org. Du bien-être dans l'éducation au bien-être au travail. En cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, travailler peut, mais oui, nous rendre plus épanouis. La franchise Café Joyeux s'est penchée sur le bien-être de ses employés. Ces restaurants emploient près de 200 personnes en situation de handicap cognitif. Et d'après une enquête menée par le laboratoire d'études d'impact social de l'ESSEC, ces salariés, souvent exclus du monde du travail, y trouvent leur compte. Robin Schmitt.
Plus d'interactions sociales, plus de compétences professionnelles, que du plus pour les employés en situation de handicap dans l'entreprise. Du moins, c'est le constat d'Élise Leclerc, qui a dirigé l'étude pour l'école de commerce ESSEC.
On voit un impact très fort sur l'augmentation de leur confiance en eux, sur les compétences qu'ils ont pu développer. 93% des équipiers donc disent avoir augmenté leur autonomie.
Le Cadan France, par exemple, en plein service de midi, la trentenaire va et vient entre la salle et la cuisine.
Je peux avoir des couverts, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr, madame, ça va arriver.
Anne France est porteuse de la trisomie 21. Elle est engagée il y a 2 ans, sans expérience.
En arrivant, je ne savais pas faire porter le plateau, faire la caisse et le café. M'a beaucoup appris.
Mais maintenant, elle sait se débrouiller toute seule. Travailler 5 jours par semaine l'a rendue bien plus autonome.
Grâce au Café Joyeux, je ne sais pas le métro, alors qu'avant, je n'avais pas pour le métro. Je me sens à l'aise maintenant.
À l'aise, mais aussi plus en confiance face au regard des autres. Comme 9 employés du Café Joyeux sur 10, elle se sent
plus libre d'aller visiter des musées, de sortir. Pour moi, c'est heureux. C'est grâce au travail.
L'étude pointe aussi l'impact sur les familles des salariés. Elles se sentent plus fières de leurs proches et sont moins inquiètes pour leur avenir.
Robin Schmitt du service économie et sociale de France Inter.
8h12, l'heure du journal des sports.
Et Nicolas Perronnet nous a rejoint à petite foulée ce matin. Bonjour Nicolas.
Bonjour Corinne.
Et le PSG n'a finalement pas célébré hier soir au Parc des Princes.
Et non, tenu en échec 3-0 face au Havre. Les supporters vont devoir encore patienter un peu pour fêter le 12e titre parisien en Ligue 1. Alors sans doute pas longtemps, il y avait déjà guerre de suspense avant la rencontre. Il y en a encore moins ce matin et il n'y en aura peut-être plus du tout ce soir si Monaco, 2e, ne s'impose pas à Lyon. L'entraîneur Luis Enrique, de toute façon, a fait des comptes et lui ne s'embarrasse plus du tout du conditionnel.
On est champion, qu'il y ait une fête ou pas, ça m'est égal. On est champion de France, sans aucun doute. Une différence de but, plus 29 sur le deuxième, je me sens déjà champion.
Voilà, le PSG.
Record de vitesse, Luis Enrique, dans la parole.
On l'aura compris, en tout cas, le PSG entièrement focalisé sur une chose, son grand rendez-vous évidemment à venir face à Dortmund la semaine prochaine.
Comme d'ailleurs sa section féminine.
Oui, qui joue elle aussi une demi-finale de Ligue des Champions. Ce sera là cet après-midi face à l'OL. Les Lyonnaises sont en ballotage favorable après leur victoire. 3-2 au match aller. Le coup d'envoi 16h au Parc des Princes.
Avec une forte affluence attendue, comme hier à Bordeaux, pour les Françaises en rugby.
Oui, 28 023 personnes, c'est très précis, ont vu les Bleus rater le Grand Chelem, s'incliner une nouvelle fois face à l'Angleterre. C'est une précision importante car c'est un record d'affluence pour un match de rugby féminin en France. Et ça console un peu la talonneuse Agathe Socha.
Ça touche, je pense qu'on n'en prend pas forcément la pleine mesure. Nous, notre objectif, c'est aussi de faire briller les yeux des petits garçons et des petites filles qui nous regardent. Et on a envie d'amener les gens avec nous dans notre aventure, dans notre rugby et d'amener les gens au rugby tout court. On s'en rendra peut-être compte après, mais on est très fiers. Ouais.
Ah, de quoi atténuer un petit peu la déception d'une 13e défaite consécutive face aux Anglaises.
Et puis, c'est aujourd'hui le retour d'une course à la voile historique.
Oui, l'une de celles qui ont fondé la discipline. La Transat anglaise avait disparu du paysage depuis 8 ans maintenant. Elle renaît aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis. États-Unis, avec une particularité, Jérôme Val, celle d'attaquer l'Atlantique par le nord.
À la fin des années 50, une poignée de marins intrépides cherchaient un défi à la hauteur de leurs envies les plus folles. Voilà comment est née la première course en solitaire qu'à l'époque, beaucoup trouvaient insensée. La première édition en 1960 ne réunit d'ailleurs que 5 bateaux. Mais en quelques années, elle a vu s'imposer des légendes. Alain Colas, Loïc Perron à 3 reprises et Éric Tabarly qui la gagne 2 fois en 1964 et 1976 après avoir affronté des conditions en mer dantesques.
Il y a eu beaucoup de mauvais temps. Il y a eu 5 dépressions en 8 jours de temps, dont 2 très, très fortes. Vraiment du vent vraiment sur le nez tout le temps. Hein.
Là où les autres transats créés plus tard comme la route du Rhum filent vers le soleil aux Antilles, les concurrents de la transat anglaise affrontent l'Atlantique Nord usant, raconté en 2016, le dernier vainqueur, François Gabart.
C'est unique quoi, parce que traverser l'Atlantique, c'est pas rien. C'est un exercice en soi qui est pas anodin et que je ferai pas 50 000 fois dans ma vie non plus.
En 1960, les pionniers mettaient 40 jours à rejoindre l'Amérique. Les marins de 2024 sur leur monocoque nouvelle génération mettront sans doute une grosse semaine.
Et départ de cette transat à 13h30 depuis Lorient.
Merci Nicolas Perronnet.
Dans votre journal, Corinne Audouin, il est 8h16.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Elle est toujours là, Céline Dacosta, et elle nous annonce de bonnes averses pour l'est du pays aujourd'hui.
Oui, on les retrouve déjà ce matin du Languedoc-Roussillon, région PACA, Rhône-Alpes, jusqu'en Alsace, accompagnées de rafales de vent, alors moins fortes qu'hier, mais bien présentes. Du vent, on en a aussi sur les côtes de la Manche, avec là aussi un petit peu de pluie. Idem sur la façade atlantique, on aura quand même également un petit peu de soleil. Partout ailleurs, l'ambiance sera partagée entre nuages et éclaircies. Pour les températures, un peu frais ce matin, surtout sur le nord du pays, la moyenne va de 6 à 15 du nord au sud, avec 10 degrés à Paris.
Mais les averses reviennent par l'ouest cet après-midi. J'ai interrompu, ouais. Ali, vous aviez une question ?
Non, pas du tout.
Sur Paris.
Dire l'heure.
Mais il faut quand même qu'elle nous explique que les averses reviennent par l'ouest.
À 8h17.
Oui, elles seront, ben voilà, on a tout dit, elles seront même parfois orageuses entre le nord de l'Aquitaine, la région centre, le nord-ouest, la pointe nord, en passant par la région parisienne. Il pleuvra toujours de façon beaucoup plus soutenue, avec parfois quelques coups de tonnerre de la Méditerranée au nord-est. On va surveiller les cumuls hein, sur les Cévennes, c'est là où il va le plus pleuvoir aujourd'hui. On attend 3 semaines de pluie d'ici ce soir. Quant aux températures, on est dans les normales, sauf près de la Méditerranée où c'est un peu juste pour la saison. 12 à 19 du nord au sud, jusqu'à 26 à Ajaccio. Là, le soleil va briller toute la journée.
Merci Céline Dacosta. Tout de suite, géopolitique.